RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan Macardy, on vous attend au 32-16 pour revenir sur la victoire de l'AS Monaco 4-0 face à Dijon. On vous attend également sur le hashtag RMC Live pour réagir à ce succès monégasque. Monaco qui a 4 points d'avance sur Marseille ce soir. Hashtag RMC Live.
Même si Marseille bat Bordeaux,
quel que soit X, l'Égypte est éliminée.
C'est ça?
Ouais.
Oui, c'est ce que ça.
Ah, il a et tout à l'heure, on va revenir également sur. On vous pose la question d'ailleurs, supporters du PSG et pas que du PSG. Comment Emery doit gérer les cas Thiago Silva et Angel Di Maria? Il s'exprimait d'ailleurs sur cette question aujourd'hui en conférence de presse. Laurent Fala, notre community manager, vous pose la question également sur le compte Twitter de l'After, sur le hashtag RMC Live d'ailleurs. Thiago Silva est-il encore légitime comme capitaine du Paris Saint-Germain? Pour l'instant, sur près de 5000 votants, vous êtes 69% à répondre non. Donc voilà, on attend vos votes également sur le hashtag RMC Live. On va revenir d'abord et continuer de dérouler ce match entre l'AS Monaco et Dijon. Laurent, supporter de l'ASM, nous a appelé au 32-16. Salut Laurent.
Salut Nico.
Salut Laurent. Il a la pêche Laurent.
Ça c'est bien.
Il faut qu'on gagne, hein, et avec la manière.
Ouais, ça va, t'es habitué à gagner en ce moment.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami Max. Oui, on peut dire que pourtant je suis quelqu'un de très défaitiste, surtout de ce que j'ai eu l'année dernière. Et au début d'année avec le jeu qui pratiquait. Non, on va dire qu'on est content. On peut pas non plus tirer sur la corde. Après, hein, on a vu ce que c'était comme adversaire ces derniers temps. Hein. C'est pas non plus des foot de guerre. Hein, donc faut pas non plus partir sur.
La série, elle est sympa, Laurent. Ça fait 11 matchs sans défaite en Ligue 1. Voilà, ils sont invaincus. Ils ont pas perdu depuis le 19 novembre à Nantes.
C'est pour ça, Nikos, que j'ai pas chialé. Il est clair qu'on est content. On a la deuxième place. On est devant Marseille. Là, maintenant, on redonne un coup de pression à l'OM, qui, je crois, reçoit Bordeaux. Lyon, je sais plus où il déplace.
Et puis, ouais, voilà. C'est surtout le goal average en même temps. Hein. C'est le goal average.
Ce que je vois aussi, le goal average intéressant. Voilà, Lyon, je crois qu'on a 38 buts plus 38, donc c'est pas mal. Bon, après, bon, c'est maintenant l'objectif, c'est la seconde place, puisque à part la finale de la Coupe de la Ligue, même si ça va être difficile contre le PSG, on a quand même une finale haut la main. Et puis maintenant on attend de voir. Moi j'attends. Voilà, je vais pas m'enflammer. Je n'ai pas oublié le mercato estival. Il y a certains joueurs qui sont encore. Bon, même s'il a marqué un but Baldé, le reste de la partie, on l'a pas vu.
Faut pas être trop dur avec lui, hein. Il joue numéro 9 dans un 4-2-3-1.
Ouais,
c'est pas son poste, il joue contre nature.
Mais toi, t'es quelqu'un de bien, toi, t'es toujours en train de les protéger.
Mais il joue pas à son poste.
Il joue attaquant.
Ouais, mais bon, tu joues attaquant
contre attaquant. Jovetic, la semaine dernière, il joue attaquant. Et Jonathan, Jovetic, la semaine dernière, il joue attaquant. Il a touché plus de ballons que le Baldé.
Mais Jovetic, c'est déjà plus son profil de jouer dans l'axe.
Il est un petit peu plus en retrait quand même.
Il faut qu'on arrête à cadrer les joueurs maintenant.
C'est une question de profil, Ali. Moi, je peux comprendre que Jovetic soit plus à l'aise dans l'axe qu'un Baldé, par exemple.
À l'aise, c'est une chose. Ouais. Je veux dire, mais jouer dans une équipe en général qui domine plus ou moins à domicile, l'attaquant, il doit toucher beaucoup plus de ballons.
Le but important de la soirée, mais sur l'action.
Mais après, tu joues numéro 9 dans un 4-2-3-1, on te demande de faire des choses. Du jeu en remise, de garder les ballons, prendre les ballons de la tête, emmerder les deux centraux. Ce genre de choses, c'est pas les mêmes choses qu'on te demande que si tu joues sur un côté. C'est une question de profil et de qualité. C'est pas, ça lui correspond pas. Après, il fait quand même son match.
Il faut arrêter avec les profils des milieux terrains que j'entends. Non, ce joueur-là, il n'est pas bien à gauche, il n'est pas bien à droite. Je vais te dire un truc, c'est quand même des conneries, parce qu'on a beau le dire, et quand j'entends toujours les mêmes conneries, et quand tu es attaquant, tu dois te démener et faire la différence. Okay. Maintenant, on va dire non, Ronaldo, il est bon qu'à gauche, il est pas bon d'à droite.
Donc on va Donc Robben, il pourrait jouer à numéro 9.
Robben, il peut jouer
numéro 9.
Mais fais-le jouer attaquant comme il fait Baldé dans une équipe qui domine, tu vas voir combien de ballons il va toucher, Robben. Mais tu vas voir combien de ballons il va toucher.
Donc Robben, tu me dis qu'il pourrait jouer numéro 9, par exemple.
Numéro 9, c'est attaquant. Attaquant, ce n'est pas numéro 9. Tu as des avantages.
Ça dépend du schéma, on est d'accord. Quand tu joues dans un 4-3-3, si t'es le mec qui est dans l'axe,
ça
ne
veut pas dire que
tu n'as pas le même rôle que les deux mecs.
Ça dépend
de
l'animation. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas toucher le ballon.
Non, c'est pas ce que ça veut dire.
C'est le joueur qui fait en sorte que Ronaldo, tu le mets à droite dans l'axe.
Mais là,
tu
prends Jésus.
De quoi?
Non, tu prends un extraterrestre.
Non, la plupart du temps, on dit non, Ronaldo, il est bon qu'à gauche, il commence à gauche.
Personne n'a dit ça, c'est des conneries pour le coup.
Si, on entend souvent quand il commence à gauche.
Ronaldo, c'est un extraterrestre. Non, c'est pas.
Ce que je veux dire par là, c'est que Baldé, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe et à gauche, il peut jouer les trois.
Mais bien sûr. Défenseur central aussi.
Non. Mais non, c'est pas pareil.
Non, c'est dans l'axe.
C'est pas la même chose.
La preuve,
regarde Glick qui marque en pleine lucarne du pied gauche encore une fois.
C'est le bon exemple.
Non, mais c'est pas mon exemple dans le sens où qu'un attaquant, un bon attaquant, quand il joue à Monaco,
alors attends, j'ai une question. C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais attaquant?
Alors il y a l'attaquant,
il
y a
le mauvais attaquant. Il tire.
Non mais pour en revenir que Baldé, si il est vraiment bon et qu'il est dans l'axe, il doit faire en sorte d'être toujours dans les bons endroits, dans l'intelligence de jeu et tout, pour avoir le ballon et pour faire la différence. C'est ça la différence.
Je trouve que c'est totalement différent de savoir te placer et te déplacer quand tu joues dans l'axe entre tes deux centraux, que t'as deux centraux face à toi, que quand tu joues sur un côté, que t'as ton latéral à déborder, quoi.
Je dis pas le contraire, mais Baldé sait le faire. Maintenant, c'est...
Pas tellement, je trouve.
Ah ben le pauvre, alors, ils auraient pas dû le prendre. Alors si c'est pour jouer
par contre,
juste un côté...
Par contre, je sais pas si je suis encore l'entendu.
Vas-y Laurent.
Vous m'entendez?
Oui, Laurent.
Par contre, ouais, non mais désolé.
En revanche,
c'est sûr. Je voulais pas que vous vous battiez pour Baldé, hein, mais bon, c'est bien, ça me fait plaisir.
On se bat pas, on discute.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un joueur qui m'a l'air intéressant, franchement, c'est le petit Italien, la Pellegrina.
On l'a pas vu 5 minutes. Ça, c'est
5 minutes.
Non, il fait pas si c'est pas quand t'as une nouvelle, quand t'as une nouvelle nana, t'as pas encore passé à la chambre avec, tu crois que c'est 5 minutes, ça fait Miss Monde.
5 minutes, c'est pas mal. Attends, il est rentré 5 minutes, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai trouvé qu'il, les 2-3 ballons qu'il a touchés, ça avait l'air d'être intéressant. Maintenant, faudrait le voir un petit peu longtemps, sur le terrain, mais, je pense que ça peut faire quelque chose.
Il me fait passer un petit peu à Carrijo, c'est ça? On dit comme ça?
Ouais, Carrijo.
Il me fait passer un petit peu dans les styles.
Carrijo, alors c'est le seul truc que les Rouskov, ils ont fait de bien, c'est le vendre 20 millions au club anglais, là, de je sais pas
où. On va voir si le petit jeune marque autant de buts que lui, tu me diras. Parce que Carrijo, quel âge il avait?
Il était jeune, il avait 26.
Il est où maintenant? Il est où maintenant, Carrijo? Il est parti où?
Southampton.
Ouais, voilà. Il est parti se perdre dans le nord de l'Angleterre, là.
Non, ça va,
c'est dans le sud, mon gars.
C'est dans le sud.
En plus, t'es le brel en géo, là, Laurent. Oh.
T'es chaud,
ouais,
Laurent.
C'est pas grave, j'ai pas fait exprès, désolé.
Dis-moi, Laurent, j'ai te posé la même question qu'à Mathieu tout à l'heure, autre supporter de l'ASM qui était avec nous dans l'after. Est-ce que t'es confiant pour la deuxième place pour Monaco?
Écoute, franchement, quand on voit les prochains matchs, je pense que, ouais, ça peut le faire.
Alors attends, prochain match, c'est à Toulouse et tu reçois Bordeaux quand même, hein. C'est pas mal, hein. Et déplacement à Strasbourg ensuite.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, là, t'as Marseille-Bordeaux, t'as un PSG-Marseille la semaine prochaine.
Ouais. 6 points pour Marseille.
T'as Lyon qui reçoit Saint-Etienne, c'est pas gagné non plus, hein, même si Saint-Etienne, c'est pas facile. Non, je pense que le Monaco, ça peut le faire. Le fait de plus jouer de Coupe d'Europe, bon, ça les libère un peu. Il élimine la Coupe de France. La finale de la Coupe de Ligue, je crois que c'est au courant avril, je crois.
Ouais, ça va venir.
Ça va devenir. Bon, mais non, je pense que Monaco. Non,
et puis Golaveras, c'est un point. Hein.
Oui, exactement.
C'est un point en plus.
Mais là, très sérieusement,
ça fait 2x4, 8-0 là.
Sur les deux prochaines journées,
à Marseille, ils peuvent
Monaco
jouer la
peut distancer.
Non, et puis non, c'est pas ça. Les autres. Marseille va savoir Marseille.
Ah, ça c'est clair aussi.
Ça fait deux matchs compliqués là.
Ouais. Je pense que la Coupe Intertoto pour Marseille peut aussi leur couper un peu les ailes.
Mais t'inquiète pas, avec Bruna, Roberto Carlos Sarr, ça va aller.
Ouais, mais Jonathan, ils ont pas ils auraient encore le banc, je t'aurais dit oui, mais ils ont pas de banc. Hein. Le seul club en France actuellement qui a un super banc, c'est le PSG, on peut dire ce qu'on veut.
Attention, match retour à Braga.
Moi, je te le dis. Attention, retour à Braga.
Non, mais t'es sérieux là?
Mais arrête.
C'est pas parce qu'il y a eu un miracle
du côté du Camp Nou l'année dernière qu'il faut que ça se reproduise chaque année.
Et puis en plus, à Braga, tu regarderas les images du stade, le virage, il est chaud là-bas.
Moi, je te dis,
il n'y a pas ici.
Il n'y a plus de place.
Bah non, ils sont creusés. En fait, le stade est creusé dans la roche. Il n'y a pas de virage, en fait. Le stade de Braga, tu regardes, t'es sur BFM Sport, il y a deux tribunes comme ça latérales, et derrière, c'est à une roche, c'est l'autre.
Ah, mais ouais, mais je me rappelle, parce qu'il
avait remporté
avait
un
déjà
prix, d'ailleurs. Il avait été inauguré pour l'Euro 2004. Voilà, bien entendu, avec un architecte Doubled. Voilà. Mais c'est un très beau stade, c'est à visiter.
C'est sûr,
d'ailleurs.
C'est Doubled.
Ouais, c'est un gage. Non, mais c'est une très belle ville, d'ailleurs, Braga. Braga Port.
C'est incrusté dans la roche, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, Laurent, tu voulais rajouter un truc.
Non, merci à vous, l'équipe. Merci pour toute cette soirée sympathique. Et puis, on se donne rendez-vous à la fin du championnat.
Ne raccroche pas, Laurent, j'ai un cadeau pour toi. Est-ce que t'as vu Blade Runner 2049?
Ouais, ça y est, mon Nikos. Je devrais pas le dire, mais je l'ai téléchargé. Donc,
tu l'as déjà?
Je l'ai vu. Ouais, je l'ai déjà.
Il l'a piraté.
Non, je dirais pas ça.
T'auras rien, alors, Laurent.
Allô? Quoi?
Du coup, tu ne te l'envoies pas, alors, si tu l'as déjà vu.
Bah non, t'en attends,
t'es fair play comme mec, toi.
On fera le jeu comme ça,
il dormira bien ce soir.
Il t'appelle Nikos et il te dit de m'offrir le DVD pour pas que je dorme tout seul.
Oh, c'est sympa. Ouais. Je ne dis
ça. Mais t'inquiète. Non, en tout cas, super film.
Mais tu fais la promo du film.
Mais je l'ai vu aussi, il est très bien.
Bon, merci en tout cas, voilà. Laurent. Bonne soirée à toi, Laurent.
Ali, je t'embrasse, Ali. Hein, tu nous manques. Hein.
Merci.
Bonne soirée, Laurent.
Il est bon, Laurent.
Il est bon, hein.
Ouais, bonne humeur et tout.
Les deux.
Il parle
de Ouais, exactement. En vainqueur maintenant, Frédéric. Je pense qu'il a un peu moins la pêche, le Frédéric, parce qu'il est supporter du DFCO. Il est supporter de Dijon.
La moutarde de Dijon très pelle au nez.
Salut, messieurs.
Ça va, Frédéric?
Ben ça va pas trop mal malgré la grosse défaite là à Monaco.
Ouais.
Ça fait un peu mal, mais bon, on va dire que c'est pas notre championnat.
Ce qui est vrai. Ton vrai championnat, c'est la semaine prochaine et la semaine d'après contre Troyes, voire même Saint-Etienne d'ailleurs dans 3 jours.
C'est quand même inquiétant de pas arriver.
Non, son vrai championnat, c'est le match à domicile.
Non, mais c'est quand même inquiétant de voir la dichotomie que l'on peut constater entre le Dijon à l'extérieur et le Dijon à domicile.
Il joue pas à Dijon, lui.
Allô?
Dichotomie.
Bon, alors je vais le reformuler. C'est inquiétant de voir que Dijon est totalement nul à l'extérieur.
On sait parler là-haut.
On comprend.
Mais c'est inquiétant parce que tu vas pas forcément. Enfin, Dijon est quand même a un petit matelas d'avance sur les trois dernières places. Mais c'est quand même serré. Il y a quand même beaucoup d'équipes et je pense qu'il faudrait quand même gagner 2-3 fois à l'extérieur.
Non, c'est pas ça. C'est surtout que si Dijon commence à faire des matchs chez lui ou perdre, là, ça va être chaud.
Exactement.
Alors Dijon est 12e avec 31 points. Pour l'instant, le barragiste c'est Angers avec 25 points. Effectivement, il y a un match là. Oui. Ça t'inquiète toi, Frédéric, ou pas d'ailleurs ça? Le fait que Dijon gagne jamais à l'extérieur, ils ont une victoire cette saison et c'était à Metz.
Bah écoute, j'ai envie de te dire, je serais pas rassuré si effectivement à l'extérieur on prenait pas de points et ni à domicile.
Là vous serez derniers.
Ouais, actuellement c'est vrai que on fait carton plein, je crois, depuis quelques matchs à domicile. Donc on a un parcours, on va dire, un petit peu atypique, mais. Heureusement qu'on prend des points à domicile, les 3 points et des matchs nuls, parce que là, ça serait vraiment alarmant.
Frédéric, il y a une chose qui m'inquiète quand même pour Dijon, c'est que même quand ça gagne à domicile,
52 buts en caisse.
La défense, elle est toujours à la rage.
Problème. Hein.
Alors, comme je le disais dans mes 3 points, je veux pas taper sur un en particulier, mais t'as une charnière centrale qui fait peur.
Mais ils se parlent même pas.
Avec un mec qui est censé avoir joué, je sais pas s'il a joué à Chelsea, qui était l'ancienne next big thing de Ligue 1, mais c'est les 4, mais... C'est dur, hein. Franchement, c'est dur.
Bah, attends, ce que je comprends pas, c'est que en début de saison, c'est Chafi qui joue à droite, je crois. Et je sais pas si c'est Varro qui joue à gauche ou pas.
Varro, non, il était plutôt dans l'axe.
Dans l'axe. Et Adadi a commencé en titulaire à gauche.
Ouais, il a été plutôt à gauche, ouais.
C'est vrai qu'Adadi, il est pas mal. Mais dans l'axe, Yamberé.
Franchement, il est pas.
Et comment il s'appelle le deuxième? Djilobodji. Ils se parlent même pas.
Non. Non, mais ils ne se parlent pas, il n'y en a aucun qui voit l'autre.
Ton avis, toi, sur cette défense, Frédéric?
Comment?
Ton avis sur cette défense, justement, qui est la pire défense de Ligue 1?
Ouais, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que la charnière centrale pourrait être pas mal. Ouais, si on mettait l'Otoa, parce qu'il a été super rassurant contre Rennes pour sa rentrée après une grosse blessure. Je comprends pas trop pourquoi on associe Djilobodji à Yamberé, qui est un petit peu jeune, qui a peut-être pas encore l'expérience.
Deux mêmes profils en plus.
Ouais. Et c'est vrai que les latéraux, ils sont vraiment portés. Ben voilà, Dijon, c'est une équipe qui est portée sur.
Ils sont mal portés à l'avant, vers l'avant, les latéraux.
Ouais.
Ils se remplacent jamais. Les fermetures et les distances de marquage, les couvertures, ça, ils connaissent pas quoi.
Et on prend souvent le feu en fait sur les côtés.
Je vais te dire un truc, Frédéric. Moi, je suis d'accord que les latéraux montent. J'aime bien ça.
Bien sûr.
Mais dans une équipe qui est comme Dijon. Même si elle joue bien au ballon, je suis désolé, mais
il faut quand même
ils ne doivent
être
pas autant monter que ça. Ils doivent d'abord penser à bien rassurer leur milieu, leurs attaquants en défendant bien.
Il faut
bien
garder l'équilibre du bloc.
Que quand tu es très haut, là tu demandes, ça je suis d'accord.
Bien sûr.
Mais pas tout le temps, à n'importe quel moment.
Réaction de Platoche, fidèle de l'after sur l'hashtag MC Live. Moi je connais le Dico le Robert, mais pas le dichotomie. C'est très bon ça. J'aime bien ça. T'aimes bien ça?
Ouais,
bon. Mais t'es relou, toi, mais t'aimes jamais rien, toi.
J'aime mal raconter, ça, en fait, c'est surtout ça, quoi.
T'aimes quoi?
Alors, comment il fallait raconter?
Non, tu sais ce que j'ai compris, moi, j'aime me la raconter.
Ah, mais ça, bien sûr.
Je me suis dit, putain, le mec, il devient lucide, quoi. C'est vachement bien.
Je te dis, mais je laisse, bien sûr.
Ah, mais complètement. Bon, sinon, t'es pas plus inquiet que ça, donc tu nous as dit, Frédéric. Confiant pour le DFCO.
Non, ouais, parce qu'effectivement, maintenant, on a deux matchs.
deux matchs qui sont dans notre à notre portée avec avec Troyes, avec Caen et
bah, 3, c'est vrai que 3, ça va être intéressant, match au Stade de l'Aube. En plus, c'est un mini-derby, on peut le dire. Avec,
bon, voilà, ça va être encore extérieur. Donc, justement, là, on va vraiment pouvoir jauger. Effectivement, par contre, si on perd, c'est vrai que ça va vraiment
c'est
être
inquiétant.
Une
3, ça va être le virage.
Ouais, ça va être inquiétant, ouais.
3, ça va être le baromètre, hein, véritablement.
Mais ouais, je pense exactement. Que, voilà, on a l'équipe, l'effectif pour terminer, peut-être pas en milieu de tableau, mais voilà, 12, 13e, 14e, quoi. Je pense que ça va le faire.
Ouais, puis elle est sympa, la philosophie de Daloglio. Moi, j'aime bien, moi, le fait qu'il essaie de jouer. C'est vrai que peut-être qu'il devrait plus blindé à l'extérieur, mais...
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Qu'il essaye de jouer à domicile, je suis d'accord, mais qu'il fasse la même chose à l'extérieur. Il ne fait pas la même façon
après,
de jouer.
Après, c'est peut-être ses joueurs, ils sont bridés, hein. Non, c'est, après, c'est la loi
mais
des
c'est
séries.
C'est ça le problème.
Ah ouais, mais bon.
Je les ai vus dégager, alors que d'habitude, ils contrôlent même entre deux joueurs. Là, en première mi-temps, alors que Monaco n'était pas bien, ils ont passé leur temps à jouer long, à dégager. Ce n'est pas leur jeu. Jouer de la même façon et aller de l'avant pour essayer de gagner les matchs et gagner les duels. Et là, ça sera différent.
Frédéric, tu l'as vu, Blade Runner 2049, toi ou pas?
Encore.
Ouais, bah, tu vas le voir, mon gars, c'est cadeau, on t'envoie le DVD, tu raccroches pas.
Il a dû écouter
un peu de moutarde.
Propre. Et j'avais déjà gagné pour ma première intervention deux places de ciné, donc c'est bon.
Ça va, joue au loto, mon pote, toi.
Ouais.
T'es casé ou pas, Frédéric?
Non, mais surveille ta femme, voilà, ouais.
Ouais, casé avec
les
enfants.
Ouais, donc, bah, la chance au jeu et la malchance en amour. Hein,
il a casé les enfants.
N'importe quoi. Voilà, chef-d'œuvre de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling.
Quand t'es aussi chanceux comme ça au jeu, c'est que ta femme, elle est peut-être avec le voisin.
Mais toi, t'as une fixette là-dessus, mais tu veux qu'on en parle?
Ils sont bons, les gars.
Plus tard.
Non,
tu veux qu'on en parle ou pas?
C'est d'ailleurs quelque chose à te dire. Faudra qu'on en...
C'est une philosophie à mettre dans le dico, ça.
Le dichotomie.
Exactement. Voilà.
Bonne soirée, Frédéric. Ciao, rapproche Frédéric. Pas du coup, c'est pour toi.
Ouais, bonne soirée.
Ciao, Frédéric. Merci, Frédéric. Ciao. Voilà, pas mal de réactions, bien entendu, sur l'hashtag RMC Live. Et on vous lance l'appel, supporters du Paris Saint-Germain. On est à J+3 de la désillusion face au Real Madrid. La défaite 3-1 face au Real en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. On a une semaine du premier choc face à l'Olympique de Marseille. Thiago Silva et Di Maria n'ont pas joué ce match face au Real. Comment Unai Emery doit gérer les cas de ces deux joueurs? On attend vos propositions, vos réponses également sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Et n'oubliez pas le sondage sur le compte Twitter de l'After, le sondage de Laurent Fala. Thiago Silva est-il encore légitime comme capitaine du Paris Saint-Germain? Vous êtes 69% à répondre non. D'accord, pas d'accord. On va y répondre en quelques instants avec Ali Benarbia, avec Jonathan Bacardé, avec vous au 32-16. À tout de suite pour la suite de l'After.
RMC, le super football show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan Bacardi, on vous attend au 32-16 pour revenir dans quelques instants sur les cas Di Maria et Thiago Silva. Comment Unai Emery doit-il les gérer? Vous rappelez le résultat, le premier résultat de la 26e journée de Ligue 1. Monaco s'est imposé ce soir 4-0 face à Dijon. Monaco qui est deuxième au classement, alors avec 9 points de retard sur le Paris Saint-Germain, ok, mais avec 4 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Lyon est quatrième avec 48 points. Et demain, il y aura un match entre eux. Eh bien, le Paris Saint-Germain et Strasbourg, match à 17h, le PSG qui reste sur une défaite 3 en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Alors Di Maria et Thiago Silva n'ont pas joué ce match. Comment Unai Emery doit-il gérer leur cas? On vous attend au 32-16. On va prendre vos avis dans quelques instants, Ali Benarbia et Jonathan Bacardi. Juste aujourd'hui, il y avait Thiago Silva en conférence de presse, donc à 24h du match. J'ai dit quoi? Thiago Silva? C'était Unai Emery. C'était Unai Emery, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Qui était en conf de presse. Ça aurait été bien, effectivement, aujourd'hui. Et on va l'écouter s'exprimer notamment sur le cas de son capitaine qui n'a pas joué ce match face au Real Madrid, à savoir Thiago Silva. Voici comment l'entraîneur du Paris Saint-Germain commente le cas de son capitaine.
Thiago Silva, pour moi, c'est le capitaine. Il est un grand capitaine pour l'équipe. Et quand j'ai décidé que Joachim Pembe, c'est aussi pour chose tactique, une décision technique. J'ai parlé avec Silva et aussi j'ai parlé avec Kimpembe, aussi j'ai parlé avec Marquinhos, pour que j'ai besoin d'eux, que j'ai vu chaque match ou les matchs contre Real Madrid. Et après, j'ai continué avec la confiance pour les trois, pour la saison.
Voilà, Unai Emery sur le cas Thiago Silva. Alors, pour être honnête avec vous, on s'est longtemps posé la question avec Jérôme Thomas de savoir quel débat on allait faire ce soir dans l'after. On voulait pas faire du sensationnel autour de Thiago Silva. Est-ce qu'il mérite le brassard ou pas? On a fait une question un peu plus globale. Comment Emery doit gérer ce cas-là? Laurent Fola, il vous pose la question, il vous fait le sondage sur le compte Twitter de l'After. Thiago Silva est-il encore légitime comme capitaine? Vous êtes 68% à répondre non pour le moment. Ali, toi qui as vécu, qui as connu ce vestiaire du Paris Saint-Germain, même si c'était à une autre époque, comment on gère le cas de Thiago Silva qui est capitaine et qui joue pas le match de l'année face au Real Madrid?
Non, mais c'est quand même un choix incompréhensible, déjà.
Toi, tu comprends pas.
Au niveau footballistique, c'est incompréhensible. Même si c'est vrai que Kimpembe est en train de montrer d'énormes sensations footballistiques, je veux dire, il tourne quand même, donc ça lui laisse le temps quand même de jouer. Mais s'il y a un match où ton joueur le plus expérimenté et ton capitaine doit jouer, je suis désolé, c'est bien le PSG Real et non pas le PSG Strasbourg ou le PSG Monaco en Coupe de la Ligue. C'est là où tu as besoin de tous ces matchs de Champions League qu'a Thiago Silva, que n'a pas Kimpembe, même si Kimpembe montre d'énormes... Mais là, ça dénote d'une, que tu veuilles ou pas, en tant que capitaine et joueur d'expérience de cette équipe-là, ben que par rapport aux autres, ou même par rapport au coach, ben
tu peux pas dire ça.
Si.
Bah si, par exemple, le match aller à Barcelone.
Il a fait qu'un match.
Il a fait. Il n'a pas été énorme. Kimpembe. Et l'autre après, c'est Kagetu au match retour.
Non, il s'est pas Kagetu. C'est tout le monde qui a joué.
Oui, mais lui premier, c'est lui qui a dit à toute l'équipe de jouer bas.
Non.
Bah si, c'est lui qui a dit.
On parle de Kimpembe sur un match. Tu te souviens?
Il n'a pas qu'un match.
Non, je ne parle pas de Kimpembe de cette année.
Ouais.
Ce qui s'est passé, Rabiot nous l'avait fait aussi sur un match. Après, on a vu que ça a été beaucoup plus dur en Champions League. Donc, on ne peut pas parler sur Kimpembe
bon
sur
un match.
Parce que moi, j'étais au parc. Non, après, il était un peu passé au travers, Rabiot. Je parle. En Champions League. Si.
Alors,
Kimpembe, j'étais au parc, moi, contre Barcelone. Barcelone a été très moyen. Et tous les joueurs du PSG, Di Maria, ont été fabuleux. Donc, Kimpembe, qui a été très bon. Je veux dire par là. Mais ce n'était pas un Kimpembe qui enchaînait les gros matchs en Champions League. Cette année, tu peux faire la concurrence des trois. Il n'y a pas de problème.
Bah d'ailleurs, tu penses qu'il aurait dû le faire plus tôt,
c'est ça?
Mais
tu penses qu'il aurait dû le faire plus tôt?
PSG Marseille ou quoi? Tu fais jouer Kimpembe Marquinhos. Tu ne me fais pas jouer Thiago Silva.
Tu t'aurais voulu qu'il le fasse plus tôt.
Exactement.
C'est ça.
Okay. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il le fasse sur ce match-là, quoi.
Mais ce n'est ni le moment, et ce n'est même pas les matchs Champions League face au Real. Parce que même. Dans ces gros matchs, c'est beaucoup plus dans l'émotion. On le sait très bien. Ce n'est pas d'être très bon. La preuve, le Real n'a pas dominé le PSG, que je sache. Mais dans les moments de vérité, et à des moments précis, ils ont fait la différence. Au lieu que ça fasse 1-1, ça a fait 3-1. Et c'est des joueurs
comme
Thiago Silva.
Parce qu'il y a eu un bon coaching aussi, Zidane.
Non, mais ça, c'est sûr. Mais parce que tu as des joueurs, à ce moment-là, comme des Ramos, comme des Thiago Silva, qui savent à un moment donné
faire ça. Thiago Silva, il ne sait pas faire ça. Cite-moi un match où il l'a fait.
Non, mais où c'est? J'entends tellement de gens dire oui, mais quand il y a un gros match, il n'est pas bon.
Bah, c'est vrai.
Mais de quel gros match?
Ah, bah, je te les donne.
On a parlé de l'équipe nationale du Brésil, il n'était pas.
La liste. Je te fais la liste.
Vas-y, donne-moi ça.
Contre le Chili, quand il refuse de tirer le penalty et où il est lamentable tout le match. Après, l'année d'après, en Copa América.
J'ai vu
le Brésil, contre le Paraguay. Oui, il offre un penalty lamentable. Il fait la une des journaux brésiliens où il aurait même tout
ça. Ça arrive.
Mais non, il n'y a pas de héros, il met la main. C'est juste qu'il est mauvais. Et puis même, le match contre Barcelone, faut pas oublier que c'est lui qui s'aborde Emery.
C'est
lui qui. Maintenant, on sait que c'est lui qui dit à l'équipe de jouer bas.
Tous ont été nuls.
Non, mais on sait que c'est lui qui dit à l'équipe de jouer bas.
Non, parce qu'Emery.
Mais c'est à lui de donner le ton en tant que capitaine. C'est lui qui. Non, mais Ali.
Sur ce coup-là.
Ali, laisse-moi finir. C'est lui qui est capitaine. Non,
Ali, il a eu peur sur ce match-là.
C'est lui qui est capitaine. Mais non, pas du tout. Emery avait demandé aux joueurs de jouer haut. Attends, laisse-moi te dire. Emery avait demandé à l'équipe de jouer haut. C'est lui, Thiago Silva, qui a pris la responsabilité dès les premières minutes de jeu sur le terrain de dire aux autres, restons bas. Tu te rends compte?
Mais
t'es capitaine et t'écoutes pas ton entraîneur.
Mais
bah alors parce que les pilons ont dû se toucher, je sais
pas,
parce que peut-être qu'Emery n'arrive pas à faire passer son message, je sais pas, mais en tout cas, attends, laisse-moi finir. Le fait est que le capitaine de ton équipe t'a trahi dans un match clé à Barcelone, n'a pas mis en application tes consignes, alors évidemment que dans un match important, tu le remets pas.
Ali,
la confiance est rompue.
Voilà.
Donc Emery...
Mais je suis d'accord avec toi, il aurait dû faire plus tôt.
Emery est quelqu'un qui veut jouer l'attaque. La preuve, c'est qu'à Barcelone, il leur a dit de jouer haut. Ce que je passe pas du tout parce qu'il a toujours peur. Et il a montré
ça. On le sait maintenant.
C'est
des faits.
Mais ça se voit, il a peur.
C'est des faits.
Non. Contre
sur le cheval de Barça, non, c'est défendant.
Et je veux dire, contre le Real, il a encore peur. La preuve, c'est qu'il te sort Cavani. Il a peur d'aller jusqu'au bout. Et encore plus contre
le Real, c'est autre chose.
Non, et son problème, c'est contre les clubs espagnols. Il se cague dessus, Emery.
Ouais, il aime pas les Espagnols, de toute façon.
Il a peur. Il a peur.
On va accueillir Johan, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut, Johan.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Salut,
Johan. On n'arrive pas à mettre d'accord Jonathan Macardy et Ali Benarbia. Alors, mets-nous d'accord, toi.
Bah, moi, ce que je vais dire sur ce que je viens d'entendre, je suis partagé parce que. Oui, évidemment, Thiago Silva, il a peut-être pas respecté les consignes d'Emery, là, pour reprendre ce que disait Jonathan. Mais d'un autre côté, si on regarde bien la chronologie du match, il y a 3-1 à la 85e. Donc, en vérité, c'est pas à cause du fait qu'on a joué bas qu'on a pris 3 buts dans les 6 dernières minutes.
Non, mais c'est peut-être que pour ça que t'en as bouffé côté à 3-1, alors que tu dois être à 0-0.
Quand Cavani marque, pour tout le monde, on est qualifié. Et moi, le premier. Si on prend 3 buts à la 86e, il y a 3-1. 86e, c'est pas à la 60e, c'est 86e. Donc à un moment donné, voilà, c'est pas parce que Thiago Silva, peut-être que c'était aussi sur le coup, Emery lui a dit ouais, tu joues haut. Peut-être Thiago Silva, il a bien vu le truc et au final, voilà, on s'est écroulé dans les
5 dernières minutes, pas pendant tout le match.
Tu t'es écroulé tout le match.
Pour en revenir à l'actu, Johan, alors c'est vrai qu'à Lille disait, finalement, Thiago Silva, il perd sa. Enfin, il n'a pas été titulaire, il n'a pas perdu sa place, mais il n'a pas été titulaire là pour le match dans l'année. Comment tu penses qu'Emery doit gérer ce cas-là, du coup, le cas Thiago Silva? Laurent Fola pose la question sur le compte Twitter de l'After. Est-ce qu'il est toujours légitime comme capitaine, par exemple, Thiago Silva?
Moi, pour moi et pour mes amis qui sont, on suit le PSG depuis très longtemps. Pour nous, Thiago Silva, ça a jamais été un capitaine emblématique. On a eu, quand on avait les discussions là-dessus, il y en a qui penchaient pour un leader de terrain. Donc, on s'orientait plutôt vers un mec comme Cavani, qui peut-être a pas beaucoup d'influence dans le vestiaire, mais qui sur le terrain montre toujours quelque chose de très fort. Ou alors un leader de vestiaire. Mais on sait que Thiago Silva, même s'il est respecté, il n'est pas forcément le leader de vestiaire, moteur.
Il a jamais été.
Moteur. Donc. Pour nous, qu'il soit plus capitaine, au final, ça change rien. Maintenant, moi, sur le match contre le Real, moi, j'aurais mis la même défense centre que Unai Emery. Donc, pour moi, il a fait le bon choix. J'aurais mis Kimpembe et Marquinhos. Mais c'est pas pour ça que ça a éclaté.
Ali, là où Ali a raison, c'est de dire que ces choix-là auraient dû être faits plus tôt.
Non, en début de saison. Je suis pas forcément d'accord. Et là, ils ont fait un bon match, les deux. C'est pas
Il aurait dû faire ça dès le début de la saison.
Pourquoi? Non, pour le mettre de côté, je suis pas d'accord. On joue des matchs tous les trois jours. On va jouer 50 matchs cette année.
Les
gros matchs, on sait que c'est Marquinhos, Kimpembe. Voilà, Kimpembe, il fait plaisir parce que lui, on sait que dans les gros matchs, Kimpembe, il répond présent. Et il est physiquement.
Mais Johan.
Il apporte quelque chose.
Non, c'est sûr. Mais Johan, dans les gros matchs, c'était toujours Marquinhos. Thiago Silva, ça n'a jamais été Kimpembe. Ouais.
Bah, la preuve que non.
Non, oui, dans les gros matchs avant jusqu'à présent, c'était Thiago Silva et Marquinhos. Pourquoi?
Dans la hiérarchie des gros matchs aujourd'hui, la référence ultime, c'est bien le 8e de finale. Donc, on contre le Real Madrid, voilà, Emery, il a mis.
Donc, ça a commencé juste maintenant.
Oui, mais il y a eu un turnover énorme entre les trois.
Le turnover, c'est une chose, c'est très bien le turnover. Ah oui. Et en même temps, ça te permet de garder Kimpembe qui va pas se barrer. Mais sur le coup, là, c'est que si c'est moi.
Et là, t'as raison, là.
Si c'est moi, je fais jouer Marquinhos Kimpembe dans les gros matchs, avant le Real. Comme ça, c'est clair. Et Thiago Silva, tu le fais tourner.
Et tu t'évites une sorte de polémique.
Complètement.
Dans la préparation de ton match.
Ouais, je vous pose la question à tous les trois. Mais est-ce qu'Emery n'a pas voulu aussi, faire un petit coup de surprise? Tout le monde s'attendait.
C'est pas le moment de foutre le bordel.
C'est pas le moment. Elle est complètement con, ma réaction.
Non.
Mais si ça passe, elle a raison, le mec. Mais tu fais pas. Sauf que ça passe pas.
Mais tu ne fais pas ça. Tu fais pas un test.
C'est pas con. C'est pas con du tout comme remarque. Mais le truc, c'est que
c'est pas le moment.
Le choix, il est fait sur un poste.
C'est pas ce match-là.
Voilà, c'est en défense centrale. C'est pas dans l'animation offensive. Ça fait pas d'effet surprise.
À Manchester City.
Oui, mais là, c'est encore autre chose. Mais attends.
Non, mais c'était pas le moment.
Là, après, la question, c'est comment Emery doit gérer le cas Thiago Silva et Di Maria. Maintenant, au point où il en est, il ne doit pas gérer leur état d'âme.
Il
doit faire ce qu'il a envie. Il doit aller au bout de ses idées.
Voilà.
Totalement.
Moi, je suis d'accord.
Je pense que là, tu vois, sur la compo du Real, c'était un peu en demi. Enfin, je pense qu'il y a encore quelques freins. Là, maintenant, je pense qu'il joue sa tête, clairement, et qu'il doit vraiment le faire comme il le sent.
Il doit pas changer.
C'est un bon tacticien. J'ai toujours dit que j'avais des doutes, non pas sur ses capacités à organiser une équipe, à animer une équipe, mais plus à gérer un vestiaire de stars, un vestiaire avec beaucoup de personnalité. Là, on le voit, effectivement, je t'en joins, que la gestion d'écarter Thiago Silva avant un match clé, sachant que ça ferait des histoires, un petit peu de polémique si ça se passait mal, eh ben, t'aurais dû le faire avant, ça t'aurait évité des emmerdes et d'avoir qu'on ait ces débats-là, trois jours après le match contre le Real. Maintenant, au point où il en est, il faut qu'il arrête d'écouter tout ça. Il faut qu'il arrête de nous écouter, il faut pas qu'il nous écoute, son frère écoute tout, qu'il en ait rien à faire, qu'il fasse l'équipe qu'il a envie de faire, qu'il continue, parce que je pense que sincèrement, Thiago Silva, il peut plus le voir en peinture depuis ce qui s'est passé à Barcelone, qui continue avec la charnière Kimpembe Marquinhos, et qu'il fasse, enfin voilà, il joue sa tête. Donc va au bout de ton idée.
C'est même pas qu'il joue sa tête, c'est que au moment. Non, Jonathan, je vais te dire encore.
Il sait sortir, c'est fini, hein.
Non, mais même s'il passe, de toute façon, il sera plus là l'an prochain, c'est clair. Du côté des Qataris, c'est clair.
Je pense qu'il n'y a pas du côté des Qataris, mais bon.
Non, mais c'est clair. Mais c'est pas ça, c'est que
Emery
a démontré que dans les gros matchs, il n'est pas prêt, aussi bien dans ses choix et tout, il n'est pas prêt.
Ah, dans son coaching, surtout, il était lamentable.
Il n'est pas bien dans son coaching. Tiens. Il a peur. Moi, je te le dis.
Moi, je vais dire s'il a peur.
Il va pas jusqu'au bout.
Son coaching, en fait. Attends, juste.
Vas-y.
Il y a un truc que Zidane s'était planté sur sa composition d'équipe. En ne mettant pas un 4-3-3 ou un 4-4-2 avec des joueurs sur le côté pour aller perforer les ailes du PSG qui sont vraiment faibles. Il a rectifié en cours de match.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il s'est trompé au début, mais il a agi. Il a eu un pouvoir, une mamie sur le match, une action positive sur le match. Tandis que Emery, lui, avait sorti la bonne compo, a subi les événements. Voilà. Non, ça, je te répète comme un perroquet. Non, il avait fait la bonne compo, ça marche 70 minutes, mais là, il s'est sabordé par son coaching.
Il y a le cas Thiago Silva, il y a le cas aussi Angel Di Maria, parce que vous savez qu'il y a les deux épouses d'ailleurs des deux joueurs sont un peu plaintes d'ailleurs des choix d'Unai Emery sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé également Unai Emery sur Angel Di Maria, qui a pas joué non plus. D'ailleurs, ce qui est un peu curieux, on aurait pu s'attendre à le voir rentrer en cours de jeu. Pourquoi
il l'a toujours fait rentrer.
Eh ben, écoutez ce que dit Unai Emery sur le cas Angel Di Maria aujourd'hui en conf de presse.
Angel Di Maria, pour moi, c'est un joueur aussi important. Que s'il ne joue pas les mercredis, il peut jouer demain, il peut jouer aussi les matchs qu'il va venir. Il a joué moins qu'il veut avant de la trêve de janvier et de décembre et de janvier. Mais après les vacances, il a venu très bien. Et c'est les Angels que nous voulons avec cette performance.
Voilà. C'était Unai Emery sur Jorgelina Cardoso, qui est madame Angel Di Maria. C'est elle qui a été d'ailleurs la plus virulente à l'égard de Unai Emery.
Ça, c'est lamentable, quoi.
Oui, alors après, ça, c'est encore.
T'imagines ta femme aller se plaindre auprès de ton gosse.
Elle le fait souvent. Alors, ce que je dis.
Non, mais sur ton cas, tu vois.
Pour en revenir à Angel Di Maria, là, c'était pas compliqué. Angel Di Maria a joué beaucoup plus de matchs parce qu'il manquait toujours un joueur dans les trois devants.
Oui, mais il a eu une phase quand même où il a été bon. Il le dit. C'est vrai que là, depuis
le choix d'Emery.
Plus bon statistiquement que dans le jeu.
Non, mais c'est pas ça. Dans le choix d'Emery, Jonathan, c'était facile pour Emery. Parce que soit c'était Neymar qui était blessé, soit c'était Mbappé qui était blessé ou suspendu, soit c'était Cavani qui était au repos. Mais ça n'a jamais été parce que les quatre, ils étaient au top et d'un coup, Di Maria était titulaire. Ça n'a jamais été ça.
Johan, ton avis, toi, sur Di Maria?
Moi, je pense que, effectivement, on le connaît. Il part pas titulaire puisqu'on a Mbappé, Neymar et Cavani. Donc pour lui, c'est difficile de se faire une place. Mais une équipe comme Paris, elle peut pas se contenter d'avoir trop titulaires sur son effectif. Oui. Donc il faut un Di Maria concerné. Mmh. Et ceci dit, on n'en sait rien. Emery, l'année dernière contre Barcelone, je rappelle qu'au match retour, par rapport au match aller, il avait fait un ou deux changements dans l'équipe. C'est pas impossible qu'au match retour, il fasse aussi un ou deux changements.
Mmh.
Il sort Mbappé pour mettre Di Maria. Il sort Lo Celso, par exemple, pour mettre Diarra ou pour mettre Draxler.
Non, Johan, c'est impératif de faire des changements parce que je te prie de croire, je pense que Zidane ne fera pas la même erreur deux fois de suite. Hein. Je pense que là, il va se pointer avec la BBC ou avec Asensio sur un côté et qu'ils vont aller pilonner en contre ton côté avec Berchiche ou Kurzawa ou Meunier et Alves de l'autre côté. Donc, t'as intérêt à trouver la solution. Et Di Maria, dans ce cas-là, c'est une très bonne solution.
Non, mais j'ai une question là, Jonathan. Est-ce que tu penses que tellement il est peureux Emery, c'est qu'au match retour il te met la charnière Thiago Silva, Marquinhos?
J'attends de voir. Je sais pas quoi dire.
C'est possible. Si c'est vraiment un coach qui pense garder. En se disant que Mbappé c'est le meilleur, il doit garder.
Mais franchement, Ali,
il est tourné. Après.
Non mais Ali,
il a le droit de faire tourner. Il a dit qu'il voulait que les trois étaient concernés.
Ali, tu nous as dit que c'était fini, Emery, à la fin de la saison, que les Qataris en voulaient plus.
Exact.
Et ben moi, à sa place, au bout de mon idée, je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que même si tu sauveras pas ta place au Paris Saint-Germain, sauf ta réputation.
Voilà, exactement.
Mais là, si je peux me permettre, sur ce que tu dis, Jonathan, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment en défense centre qui va mourir avec ses idées. C'est plutôt au milieu. Et ou à la limite en attaque s'il veut mettre Di Maria à la place de Mbappé.
Non, Di Maria, tu peux très bien le mettre au milieu de terrain.
Non, c'est pas possible, ça, il a jamais joué.
Pourquoi?
Il a jamais joué. Ça fait 4 ans qu'il est là.
Il va en finale de Coupe du Monde à ce poste-là,
il a pas joué à Paris. Le vrai truc à Paris, la vraie question au milieu, c'est est-ce qu'il fait rentrer Pastor ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il sort un Lo Celso? Est-ce qu'il descend un peu Rabiot et Verratti?
On n'en parle même pas de Pastore.
Et qu'on en joue qu'en 4-5-1. Mais
attends, dis-moi. Pastore, on n'en est même pas venu au problème.
Il est même plus concerné.
Il est même plus concerné. On parle du troisième.
Moi, je suis pas d'accord avec
toi. Johan,
je
suis pas d'accord avec
toi. En plus, il a été bon dans les gros matchs.
Non, mais c'est pas ça, on aime bien Pastore.
Bien sûr, il est tout le temps bon.
Mais là, à l'instant T, il est plus concerné. Après, attends, il y a un truc qui est génial. Qui est génial pour le coup, je pense que oui, c'est la
pire.
Pour le coup, c'est l'année dernière, ça les a flingués, mais là, cette année, c'est leur chance, c'est qu'il y a 3 semaines.
Donc, il peut y avoir beaucoup de changements entre temps.
Oui, ils peuvent se passer beaucoup de choses. Merci, Johan, en tout cas.
Merci à vous.
Bonne soirée, Johan. À très bientôt. On va accueillir Alex, autre supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. Bienvenue dans l'after, Alex.
Oui, bonsoir à tous.
Salut, Alex. Alex, comment Emery doit gérer les cas Thiago Silva et Di Maria? On vient de l'écouter d'ailleurs, on a Emery, il était aujourd'hui en conf de presse sur les cas du Brésilien et de l'Argentin. T'en penses quoi, toi?
Alors moi je pense, je pense que Di Maria il aurait dû jouer le match aller et Mbappé sur le banc, ça lui aurait fait du bien déjà et ça aurait été très mérité. Mais je vais surtout intervenir sur Thiago Silva parce que tout le monde le critique mais on oublie qui est Thiago Silva quand même.
Mm-hmm. Non.
Alors, depuis tout à l'heure je ne sais plus son prénom, l'autre consultant, pas Ali mais l'autre.
Jonathan.
Jonathan.
Ouais, Jonathan.
D'accord.
Pour Kipembe. Mm-hmm.
Vas-y, Alex.
Voilà, au jour d'aujourd'hui, Kimpembe et Thiago Silva, s'il y a un des deux qui doit aller dans un grand club, vous pensez que quel grand club va refuser Thiago Silva? C'est quand même un très
Bon, maintenant, vu son âge et vu son passif, je pense que beaucoup.
Oui, mais justement, son passif, c'est ça qui est intéressant en Ligue des Champions, c'est son passif, c'est son expérience, malgré le fait qu'il ait des petites sautes.
Il a fait quoi en Ligue des Champions, Alex, Thiago Silva?
Il a fait quoi? Il a mis, je pense, un but à Chelsea. Contre Chelsea, non?
Oui, et après? C'est tout.
Ah, et après, je sais pas, je pense qu'il a joué des champions avec Milan.
Alors je vais te dire, parce que ça, c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois, parce que moi, dès le début où Thiago Silva est arrivé, j'ai trouvé que c'était une mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain. Thiago Silva, je vais t'expliquer pourquoi. Le contexte, c'est quand tu prends Thiago Silva, qui techniquement est effectivement un des cinq, était, parce que maintenant je pense que c'est plus le cas, mais était un des trois, ou peut-être même le meilleur défenseur central au monde, c'est que quand tu regardes Milan AC, au Milan AC, pourquoi il est bon? Il est très bon parce qu'il est entouré de cadors. Il est entouré de Tellier, il est entouré de Nesta, de Gattuso, de tas de joueurs avec des tonnes d'expérience
que
il n'avait pas la responsabilité d'avoir, d'être le leader de l'équipe, d'être le taulier de l'équipe et d'être le taulier de la défense, d'être le leader de la défense. Au Milan, c'était pas le leader de la défense. L'année où on l'appelle au Monstro, là, cette année-là, il joue la moitié des matchs même en numéro 6. Pour tout dire. Mais ça n'a jamais été au Milan AC quand il était, ça n'a jamais été lui le patron de la défense. C'était un joueur qui est techniquement extraordinaire, mais à côté, quand t'as des Nesta et des Gattuso, effectivement, t'as beaucoup moins de pression et un rôle dans le vestiaire que tu n'as pas assumé. Et ce que tu vois...
Je pense pas que Thiago Silva ait joué très longtemps avec Nesta, mais bon...
Deux saisons.
Il est capitaine de la sélection du Brésil à ce moment-là, non?
Ouais, et ça s'est jamais bien passé.
Ça s'est jamais bien passé.
Il a toujours été contesté.
Ça a été à la fin.
Non, c'est pas vrai.
Mais par contre, attends, quand tu dis qu'il prend pas sa responsabilité depuis qu'il est au PSG,
on va pas revenir sur le passé de Thiago Silva. Moi, je veux parler juste de l'instant.
Vas-y, Alex.
On sait tous que c'est un très grand défenseur en devenir. Ça va être un très grand central. Il y a pas de souci. Ce sera Umtiti, Kimpembe. Ça, c'est le futur. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde crache sur Thiago Silva. Alors que c'est un grand défenseur. Ça a toujours été un très grand défenseur. Et là, pour ce match-là, c'est le capitaine du PSG.
Mais on crache pas dessus, Alex.
Et on sait pas pourquoi.
Alex, on crache pas dessus. C'est ça, en fait, le problème que beaucoup de supporters.
Quand tu dis que je crache dessus, je crache pas dessus.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que sur ce match-là, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, par rapport à ce qui s'est passé dans la carrière Thiago Silva, et surtout par rapport à ce qui s'est passé entre Thiago Silva et Unai Emery, ça me semble logique qu'Emery aille au Real Madrid avec Kimpembe et Marquinhos. C'est tout. Mais ça si veut pas dire que le dénigre
c'est
aussi
la première fois qu'on le voit ça.
Mais ça, je suis d'accord. C'est une erreur.
Donc c'est pour le match le plus important de l'année.
Mais ça, je suis d'accord avec toi. Il y a pas de souci.
Les deux genoux.
Ali l'a dit. On est tous d'accord là-dessus.
Moi, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais tout le monde est humain et Emery doit cacher aussi des agacements, des énervements. On voit bien qu'il y a les Brésiliens avec Alves, Thiago Silva, Neymar, et qui voient qu'ils tiennent pas le vestiaire. Non, mais je pense, moi, et qu'ils tiennent pas le vestiaire. Donc, humainement, qu'on veuille ou pas, même s'il pense au résultat, dès qu'il peut envoyer une pointe, le coach, j'ai vu des coachs le faire. Et je pense que là, comme il trouve quand même que Kimpembe est assez bon et tout, c'était le bon moment pour envoyer une grosse pointe à Thiago Silva, je pense.
Ouais, mais du coup, il se fait mal à lui-même, il nous fait mal à nous, parce que.
Parce que tu penses qu'Alex Silva, ça aurait été différent.
Et il a beaucoup
plus. Alex, et très vite.
Au final, Kimpembe, il n'y est pas sur le ballon. Même si c'est pas sa faute.
Alex, très vite.
Il a pas fait le match du siècle non plus, Kimpembe, sur le.
Alex, très vite aussi, tu voulais, t'avais aussi un avis sur le cas Di Maria, je crois.
Oui, Di Maria, en ce moment, il est en grande forme. Moi, j'ai toujours été un grand fan de Di Maria, depuis l'époque Benfica. Et, voilà. Di Maria, c'est le parfait exemple. Là, il arrive au Paris Saint-Germain très très fort. Après, il a connu son petit moment, comme d'habitude, où ça va moins bien. Et là, il va très bien. Tout le monde l'encense et au final, il joue pas. Alors que Mbappé, c'est complètement l'inverse. Il arrivait au Paris Saint-Germain, c'était super. Au bout de deux mois, boum, ça y est, ça va plus. Il fait que des gris-gris. Il est plus du tout efficace. On voit pas du tout le Mbappé de Monaco. Et là, sur ce match-là, ça aurait, été une juste récompense.
Disons que mais là encore pour lui, pour Emery, moi je pensais dans sa tête, même si Di Maria en ce moment est en pleine forme, pour Emery, Mbappé va plus apporter que Di Maria. Mais c'est dans sa tête. Stop.
Merci Alex de nous avoir appelé.
Alex. Merci Alex.
Bah, je vous en prie, je vous en prie.
À bientôt. Merci. Bonne soirée Alex. Tiens, juste quelques petites infos également. On vous rappelle, hein, demain 17h, le Paris Saint-Germain qui joue face à Strasbourg.
Avec Thiago Silva.
Alors, Thiago Silva est là. Il y a le retour de Thiago Motta également. Alors, faut savoir qu'il y a Trapp, Verratti et Mbappé qui sont suspendus. Du coup, il y a le jeune gardien Sébastien Cibois, 19 ans, qui sera le remplaçant de Areola demain du côté de Strasbourg. Terrier et Mangan, eux, sont blessés. Il n'y aura pas Terrier. Alors, Mangan, il est blessé pour un long moment. Non, mais il n'y aura donc pas David Terrier. Et nous, on vous attend, supporters de l'OM. Dans quelques instants, on vous pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur Olympique de Marseille des 10 dernières années? C'est l'entraîneur de Braga qui a déclaré ça hier. Alors, pas seulement après le match. Hein, il a dit avant le match déjà. Ah, il avait dit avant le match, je crois que c'est le meilleur Marseille depuis 10 ans. Nous, on l'a regardé. On a plongé dans les statistiques. Et on vous pose la question également. Est-ce que ce Marseille est le meilleur de ces 10 dernières années? Vous en pensez quoi, supporters de l'OM? On vous attend.
C'est 3 saisons, c'est Agnès Tain, Milan.
D'ailleurs, c'est le 3e joueur avec lequel il a le plus joué en carrière.
Ouais, mais bon.
À tout de suite au 32-16 avec Ali Benarbia, Jonathan McCarty, bande de foufous.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan McCarty et vous également sur le hashtag RMC Live. Je me marre parce que les deux ils sont pas arrêtés parce que la coupure. Hein,
normalement, au bout de 20 minutes, il doit déjà se faire expulser.
Les gars,
Costa, au bout de 5 minutes,
l'amour.
C'est fini là.
De mettre des coups de coude, c'est faire l'amour. Ah oui, mais tu sais quoi? Il aime bien les joueurs qui mettent des avançades, qui mettent des coups de coude, c'est des bons. Parce que lui, il aime bien se battre.
Oscar Cardozo.
Non, parce qu'il aime bien se battre.
Tomber. Ouais, yes, we could. Non, mec, c'est un poulet quoi.
Qui n'aime pas Diego Costa? Arrêtez un peu.
Moi, je l'adore.
Moi, j'adore.
Moi, j'adore les mecs qui mettent des coups de coude. J'adore ça, les mecs qui font saigner. Les fractures des tibias.
Jonathan. C'est pas du football.
C'est nouveau ça. C'est la première fois que j'ai le droit. Vas-y, remets. Oh, c'est génial ça. Ça rajoute, ça m'a
c'est un penalty pour elle.
Okay. Voilà, quand vous n'êtes pas content. Mais c'est vrai, bah c'est bien. Écoute, moi j'aime bien. Monaco s'est imposé ce soir 4-0 face à Dijon. Voilà, c'était la première affiche de la 26e journée de Ligue 1.
1-0 à la 84e.
Monaco qui a 4 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui jouera dimanche face à Bordeaux. Match à suivre à partir de 20h sur RMC. Alors avant, vous savez que Monaco reste sur, vient de battre Braga en Ligue Europa en 16e de finale de Ligue Europa 3-0. C'était hier. Avant et après la défaite à Marseille, Abel, l'entraîneur de Braga, a déclaré qu'il s'agissait du meilleur OM des 10 dernières années. On vous pose la question. Est-ce le meilleur Marseille de ces 10 dernières années? On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour y répondre. Toi, tu dis non, toi.
Je dis non. Je dis que c'est l'OM de cette année-là. C'est peut-être un des OM sur les 10 dernières années qui a le plus de possibilités offensives. Payet, Sanson, Germain, Thauvin, Ocampos. Il y a du monde. T'as quand même 5 joueurs devant. Mais sinon, le meilleur OM pour moi sur les 10 dernières années, c'est une évidence. C'est l'OM du titre de Deschamps. Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui 2009, a gagné, beaucoup, ouais, qui a gagné beaucoup de matchs 1-0. Mais alors, c'est à dégager une solidité. On avait l'impression de voir un rouleau compresseur. Et c'était une équipe, même quand 1-0, t'étais sûr qu'elle allait pas perdre. T'étais sûr qu'elle allait pas perdre. Et je vais juste rappeler la composition de cette équipe-là.
On va la voir là sur, sur RMC Sport.
Voilà. C'était Bia Diawara dans l'axe, avec Edouard Cissé en sentinelle. Alors, c'était soit Enzo ou Taiwo, mais plus c'est Enzo qui jouait à gauche. Laurent Bonnard à droite. Laurent Bonnard, fallait voir ce que c'était à l'époque. C'est une vraie mobilité sur son côté droit. Comment?
Ah, il était Bonnard.
Ah, il était Bonnard, il était génial. Edouard Cissé, quand même, Lucho González. Ça rappelle,
t'as quel joueur?
Chaque coup franc, c'était passe décisive.
Non, Lucha,
Cabouret qui termine la saison et Benoît Chirou qui la commence. Et puis en attaque, effectivement, t'as peut-être des noms un peu moins clinquants, mais t'as Mamadou Niang qui est le plus grand attaquant africain de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et sûrement le meilleur avant-centre.
Drogba, non?
Bah, il a fait une saison.
Ouais, mais il a été très bon.
Je t'ai déjà dit, Drogba, c'est l'amour de vacances, tu vois, l'amour de vacances.
Mais à laquelle on repense, voilà,
que tu repenses un peu,
de chagrin,
que tu repenses
avec
un peu. Et Mamadou Niang, c'est la
chanson ou pas?
Mamadou Niang, c'est la mère de tes enfants, c'est la femme que t'aimes et qui t'a passé ta vie, qui a marqué 100 buts avec l'Olympique de Marseille,
champion de football. Avec la même insouciance. C'est sympa de ça?
On s'en fout.
Premier baiser, tout ça.
Putain, on s'en fout. C'est dit Niang,
toi, tu parles de bagarre, moi, je parle d'amour.
Niang, c'est l'avancement. C'est un avancement qui a marqué 100 pions avec l'OM.
Je vais te donner.
Il a marqué l'histoire du club.
Je vais vous donner quelques statistiques avant d'avoir ton avis, Ali, et le vôtre également, au 32-16. On en a regardé avec Jérôme Thomas, avec l'équipe de Breaking Foot également, voilà. Nathan Francky, Alex Teixeira, voilà, toute l'équipe de Momo Boissy. Depuis la saison 2009-2010, on a comparé au niveau du pourcentage de victoire. C'est le deuxième meilleur pourcentage de victoire. Après celui de l'année où ils sont champions en 2009-2010, en nombre de points par match, ils sont à égalité avec 2009-2010 avec 2 points par match en moyenne. Au niveau de l'attaque, but par match, c'est la meilleure attaque des 10 dernières années. 2,1 buts, c'était 1,8 en 2009-2010. La défense, c'est kiff-kiff avec 2009-2010. Et puis là, après, on est dans les stats au niveau des buteurs. Les deux meilleurs buteurs de Marseille cette saison, soit-il.
Niang, Thauvin et Germain.
Cette saison.
Thauvin et Germain.
De quelle saison tu parles ?
Thauvin et Germain, celle-ci là. Quand je dis celle-ci, ça veut dire que c'est celle de laquelle on parle.
Et l'autre, c'était Niang et Brandao.
Quand ?
En 2009-2010, c'était Mamad Niang et qui est fini meilleur buteur.
Ouais,
et puis t'avais Valbuena, t'avais Ben Arfa, il y avait Bakayoko Kone, il y avait Lucho qui a marqué quand même quelques buts.
C'était une équipe bizarre.
Alors c'est vrai qu'au niveau statistique,
bizarre, elle était géniale cette équipe.
T'es bizarre. Mais elle était pas belle à jouer, à avoir joué. Du tout.
Ça c'est n'importe quoi ça. T'as pas de bons souvenirs de.
Est-ce que pour toi c'est la meilleure équipe de ces 10 dernières années, Ali?
Ben, ces derniers temps, Marseille ne nous ont pas fait non plus sauter au rideau. Donc, c'est surtout une équipe, tu sais quoi, qui pas joue, qui est rassurante dans le jeu, tu vois. Ils gagnent pas par à-coup, tu vois. Ils arrivent pendant 90 minutes à dominer l'adversaire.
Ce qu'on disait pas en début de saison, d'ailleurs.
Exactement.
Tu sais ce qu'il y a avec cette équipe qui apparaît au fil de la saison et sur lequel on pensait pas en début de saison, c'est que il y a eu des équipes à l'OM, notamment l'équipe 2009-2010 qui était très très bonne sur le terrain. Il y a eu des équipes qui étaient peut-être moins bonnes que les autres, mais qui les supporters aimaient parce qu'ils dégageaient une sorte de capital sympathie. Par exemple l'équipe de Bielsa, l'équipe d'Eli Bob avec Joey Barton et Lucas Mendes, et André Pierre Gignac, celle-là elle était pas géniale, elle finit deuxième, elle est pas géniale, mais on l'aimait bien parce qu'elle dégageait un sympa, un capital sympa. Non, je te parle pour les Marseillais.
Ouais,
elle dégageait, t'avais une sorte d'affection pour les joueurs. Et cette année, écoute, en début de saison, j'aurais pas cru, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée. Ce que dit Payet après le match en disant c'est super d'être capitaine d'une équipe de déconneurs, ça se voit de l'extérieur. On sent que c'est des mecs sympas. Et
Flo Germain,
important.
Flo Germain, sachez-le, dans l'avant-match de dimanche, le match face à Bordeaux à partir de 20h, il va un peu pénétrer dans la coulisse également, dans le vestiaire de l'OM, pour nous expliquer d'où vient cette bonne ambiance justement. C'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe bien, c'est important aussi.
Mais ça se passe bien, rejaillit sur le terrain, dans le sens où les joueurs ont du plaisir à jouer ensemble, et quand une équipe a du plaisir à jouer ensemble et a des femmes ensemble,
pourquoi ça se
passe et il y a des victoires aussi,
il faut dire pourquoi important. Ça se passe bien.
T'as des équipes qui gagnent où les mecs sont pas forcément potes, hein.
Il faut dire pourquoi ça se passe bien, c'est qu'il y a eu longtemps, pendant on va dire 3-4 saisons sans citer de nom, mais des fortes têtes à l'OM,
c'était qui,
avec beaucoup de caractère, je fais pas de dessin, et qui s'entendaient pas forcément bien entre eux,
c'était
et ça
pourrissait
un peu en jeu. Il y avait Gignac et puis il y avait les Ayou. C'était pas non pas tellement. Si tu veux tout savoir, pas tellement. Puis il y avait c'était des forts caractères.
Ça allait
un peu au clash. Là l'équipe elle est quand même un peu plus jeune. Il y a quand même des fortes personnalités et des gens qui ont d'expérience comme Adil Rami, comme l'ami Nicolas Rolando. Mais non, c'est des jeunes, il y a beaucoup de jeunes et qui en veulent, et puis c'est des mecs sympas, vraiment, et qui s'investissent en plus dans la vie de la ville. Donc c'est bien à voir.
Mandanda, Rolando, Rami, Gustavo Payet, tu trouves que ça fait
c'est
un joueur important qui dépasse la trentaine.
Thauvin, Ocampos, Germain, il est jeune. Samson, il est jeune. Max Lopez, il est jeune.
Amavi,
il est jeune.
C'est un joueur important qui dépasse la trentaine.
Ouais.
Heureusement que
c'est un bon mélange entre des trentenaires et des joueurs et des jeunes joueurs. Mais ce que je veux dire, la différence, c'est que c'est des joueurs qui ont l'expérience, qui sont des leaders, etc. Mais qui n'ont pas ce caractère un petit peu volcanique et sanguin que pouvaient avoir d'autres leaders de l'OM par le passé.
Ça, c'est clair.
Et qu'on adore aussi, hein.
On va accueillir Dogan. Je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16. Dogan ou Dogan?
Dogan.
Dogan. Salut Dogan. C'est original d'ailleurs. C'est ton vrai nom?
Dogan.
Ouais, c'est
bon,
vraiment, c'est turc. Je pense que tu connais un peu le championnat turc.
Non, il y a des noms.
Putain, ces accents-là. Stop.
Si, c'est un accent un peu comme le.
Okay.
C'est chointant comme le portugais.
Durmaz. Okay.
Ouais, c'est ça. Exactement.
C'est vrai que j'ai un côté Durmaz avec la beubarde.
Ouais.
Arda Turan,
pareil.
J'ai pas une tête de turc, Dogan, sans déconner.
Hein?
J'ai pas une tête de queue.
Dis-nous, on s'en fout et dis-nous ce que tu veux dire sur l'OM.
C'est dur de fou.
Tu vois?
Non, mais
ça me fait plaisir.
Sur l'OM, je suis quand même choqué du fait que vous parlez pas du OM. Pour moi, c'était un an avant le titre. C'est celui de Guéret. Il était magnifique, cet OM.
Et lui, il était sympathique.
Alors, il a une cote d'amour auprès des Marseillais, ce mec. C'est quand même...
Non, c'est pas bizarre. Son équipe était géniale. Il n'y avait pas de talent extraordinaire. Il y avait Zenden, Norixana, il y avait Brandao, il y avait qui d'autre? Il y avait Ben Arfa, il y avait Baki Kone. Mais en fait, le truc, c'est que l'entraîneur, là, en l'occurrence Guéret, avec son chien Georges qui l'amenait à la commanderie.
Il dit, je sais pas, il y avait beaucoup de caractère et beaucoup de sympathie.
Et ça lui a fait beaucoup.
Bah, moi, le jour où mon chien meurt, je reste enfermé chez moi 2 mois.
Et la charnière centrale avec Sylvie et Hilton, elle était cette charnière.
Renato, mais bien sûr.
Ah oui, Renato et Hilton. Donc,
Taiwo, Bonnard, c'était quoi l'équipe? C'était Mandanda, Taiwo, Bonnard, Hilton, Sivelli dans l'axe. Il devait avoir Loric Sana avec Ben Chirou, qui était énorme, Ben Chirou, à cette époque-là. Zenden en 10.
On n'entend pas Dogan, les mecs.
Vous avez dû vous régaler.
Attends, bah oui, mais Zenden en 10.
On n'entend pas Dogan.
Non, non, c'est surtout le match au parc qui gagne 3-0 avec un but de Chirot sublime qui met un petit pont, je crois, à Sylvain Ramon.
Et Zenden qui marque et qui tombe sur la boîte, tu rappelles, orange, là.
Ouais.
Brandao
ouais,
qui lui fait une belle remise en talonnade parce qu'il ne faisait pas combien des coups de coude.
Il fait une talonnade, il met un coup de coude en même temps, sans faire exprès.
Et puis il y avait Bolo Zenden.
Ça, c'est la classe. Il a profiter du taf qu'a fait Eric Guéret, c'est un peu déçant, même si...
Il change la moitié de l'équipe, mon ami. Hein. Il change la moitié de l'équipe.
Sur les 11, pas trop non plus, hein, sur les 11.
Il y a toute la défense et tout le milieu de terrain.
Toute la défense, tout le milieu de terrain.
N'oublie pas Gabriel joue beaucoup les 6 premiers mois cette année-là.
Et ben voilà, le message est passé. Merci Dogan, toi en tout cas t'as la saudade. Merci, bonne soirée Dogan. Tu as la saudade d'Eric Garrett. Tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas David Terrier du côté de Strasbourg.
Alors ?
Bah, il s'appelle Martin et personne ne m'a rattrapé. David Terrier, c'est l'ancien joueur de Créteil et Newcastle, qui a joué 1 minute d'ailleurs avec Newcastle, qui bosse à l'UNFP je crois d'ailleurs maintenant et qu'on embrasse bien entendu, David Terrier. Merci à Saliou qui nous a fait le petit rectificatif sur le hashtag RMC Live. Quelques infos du jour. Vous savez que Malcolm a pris 2 matchs de suspension, dont un match avec sursis par la commission de discipline pour sa simulation face à l'OL. Sachez que Bordeaux a décidé de faire appel aujourd'hui. Info qui nous vient du Brésil et qui concerne certains joueurs du Paris Saint-Germain. On en parlait tout à l'heure notamment. Alors Tite a fait une interview pour le média brésilien UOL eSports et il a révélé 15 noms. 15 joueurs qui seront convoqués pour la Coupe du Monde. Il a déjà révélé 15 blases. Il a dit, voilà, il y a 15 mecs qui seront là. C'est les 11 titulaires habituels, à savoir Alisson, Daniel Alves, le Parisien, Marquinhos, le Parisien, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato, Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar, le Parisien, Gabriel Jesus, plus Thiago Silva, donc il sera là également à la Coupe du Monde, normalement, Fernandinho, William et Firmino. Donc, il a déjà...
Donc, Thiago Silva, il est d'aller...
Thiago Silva,
il est plus capitaine, il est remplaçant.
Voilà, il est remplaçant,
parce que Tite, c'est un très bon...
On le savait, ça.
Ah, mais Tite est un très... Oui, mais alors, attends. On a le temps ou pas, là?
Non.
Tite est un très bon diplomate, a réussi à le rattraper par le col, à lui dire, t'arrêtes de te comporter comme un con quand tu es en sélection.
Tu sais pourquoi?
On a besoin de toi sur le...
Parce que Tite, on a des grosses. Et puis, info qui concerne le Real Madrid, adversaire du Paris Saint-Germain, il se pourrait que Toni Kroos soit absent puisqu'il souffre d'une entorse du genou. Ah, voilà, c'est le Real qui a annoncé aujourd'hui que le milieu de terrain allemand souffrait, attention les gars, accrochez-vous, une entorse du ligament latéral du genou gauche. Et donc, la durée d'indisponibilité pour l'instant incertaine, mais il pourrait être absent.
Belle nouvelle pour Paris. Parce que même s'il n'a pas été formidable au match aller, ça reste quand même la classe.
Merci Ali Benarbia. Merci Jonathan Macardy. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain, bien entendu, pour l'after. Merci à Lolo Fala également. Merci à vous tous. Merci à
maman aussi.
Papa. Et merci à ma femme.
Ah bon ?
Ouais. Ciao Lover.
RMC, le super football show, l'after foot.